France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Cette semaine, c'est la morale kantienne que nous explorons avec philosophie. Et aujourd'hui, place à un mot qu'on utilise à tort et à travers, mais qui chez Kant est plus qu'un mot, le respect. Mais quel rapport entre le respect que l'on a envers des règles, sa hiérarchie et un grand exploit sportif, et le respect, ce sentiment moral qui nous élève à la dignité.
Out of merit to the foundation of the music, to all the godfathers who set it. You know, you have some little people don't know respect. As a matter of fact, they don't show no heart of men for the elders, but you see the elders them? You see the elders them? Tell them, say, watch it. We don't nurse, we don't pet, we don't dribble, we don't soda, we don't powder. We don't better respect the elder entertainer. We don't nurse, we don't pet, we don't dribble, we don't soda, we don't powder. All of the foundation said respect for. Some little entertainer, what is the matter with them? Them do a one song which is me top a top ten. Nothing no itty tighty flitty flighty pussy like a them face a rule. I been pan evil for them best friend and them no old. Them original corner again. Lyrics the solution for the whole of them. If them one like them one disrespect legend. Cool, cool. Uriah done rule. Uriah godfather of the DJ school. Cool, cool.
Bonjour Michel Cohen, Alimi.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris 8. Vos travaux portent sur Kant, mais aussi sur la philosophie donc allemande moderne et contemporaine. Et bonjour à vous, Raphaël Ersam.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes maître de conférence en philosophie à Sorbonne Université. On vous doit ce livre sur Kant, le problème du langage chez Kant aux éditions Vrin, mais aussi des travaux sur les philosophies féministes et les théories sociales. Je les signale parce que peut-être qu'on va pouvoir parler du rapport de Kant avec ces théories-là. Et je signale que vous deux, vous avez travaillé sur le livre Kant inactuel sous la direction d'Antoine Grandjean aux éditions PUF. Alors on va partir d'une question assez commune. Quand on parle de respect aujourd'hui, on l'utilise surtout pour parler du respect des lois, des règles, d'un contrat, pour parler aussi du respect qu'on a à l'égard d'une personne, de son chef, des professeurs, d'une personne d'autorité par son statut, sa fonction. Mais qu'est-ce que le respect chez Kant? Est-ce que c'est un concept central? Est-ce que c'est un concept de son temps? Pourquoi en fait il nous parle de respect Kant? Michel Cohen-Alimi.
Alors pour répondre à cette question, bon, on peut dire abruptement que Kant invente un sentiment moral. Mais pour comprendre en fait l'étrangeté de cette invention, je crois qu'il faut peut-être revenir sur une, le contrat énonciatif, le contrat d'énonciation de la lecture de la philosophie pratique de Kant, et en particulier de la fondation de la métaphysique des mœurs, qui était un texte à destination populaire, enfin sans rien exagérer, disons que c'était destiné à un lectorat non exclusivement philosophe.
Ça, c'est intéressant de le rappeler.
Ça, c'est important de le rappeler, parce que dans le fond, si un philosophe s'intéresse à la morale, c'est quand même avec l'ambition, en tout cas pour Kant, d'atteindre un lectorat non exclusivement philosophique, sans quoi il pratiquerait un concept scolastique de la philosophie destiné simplement aux philosophes. Or, la position, c'est qu'on n'a pas besoin d'être philosophe pour être moral. Donc, le contrat énonciatif de Kant, son contrat d'énonciation, la prémisse de toute lecture, c'est... Je n'invente rien, je n'invente pas les évidences morales qui sont les vôtres, je vais leur donner une formule. Je vais leur permettre, les clarifier, et leur permettre de gagner une efficacité. Vous donner la formule, comme un mathématicien, qui vous permet de régler avec facilité et efficacité vos problèmes moraux. Or, je pense que ce contrat énonciatif... il est en réalité beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que Kant ne veut pas s'aliéner le sens commun, que les évidences morales du sens commun ont été brouillées par une certaine philosophie qui est en vogue à ce moment-là. Le contexte est très important.
Oui, voilà, faut rappeler.
Oui, on est dans un Kampfplatz, on est dans une arène. Et Kant est en train de frayer une voie entre l'intellectualisme moral, donc on connaît le bien pour le pratiquer, pour le mettre en pratique. Ça, il bat en brèche cette position intellectualiste, ça a été rappelé, je crois. Et il y a un rationalisme moral chez Kant qui est étranger à l'intellectualisme moral. Et aujourd'hui, là, on ouvre un autre front qui est le sentimentalisme, la philosophie du sens moral. Donc il va frayer une voie difficile entre l'intellectualisme moral et le sentimentalisme. Mais alors sur le front du sentimentalisme, il me semble que ce qui est important, c'est que ce qu'il a face à lui, c'est donc toute une vogue de philosophie populaire qui s'appelle les Popular Philosophen et qui s'inspire...
Et qui ont beaucoup de succès.
Un immense succès.
C'est un peu comme le développement personnel aujourd'hui, par
exemple. Absolument, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, Kant, dans la fondation de la métaphysique des mœurs, dit c'est un dégoûtant micmac. Alors ce dégoûtant micmac, c'est un mélange de philosophie du sens moral britannique, de philosophie antique, ancienne, grecque et latine aussi. Alors sa tête de turc, et il ne faut pas oublier que la fondation de la métaphysique des mœurs, ça devait s'intituler l'anti-Garve. Garve est le représentant éminent de ce courant, il a traduit le Déophikis des devoirs de Cicéron, il a traduit l'éthique à Nicomaque, et donc disons que toute cette vogue, qui a un grand succès populaire, s'appuie sur une anthropologie, s'appuie sur un sentiment moral. Donc anthropologie, doctrine du bonheur. Alors la difficulté de Kant, c'est de dire je ne vais pas du tout substituer à vos évidences morales une nouvelle chose qui serait ma morale. Je vais maintenir vos évidences morales, je vais les clarifier. Mais ça, je crois que c'est une ruse extraordinaire parce qu'en réalité, le sens commun va accréditer un bien connu que Kant n'éclaire pas mais qu'il performe.
Alors c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que c'est une rediction. Il va redire ce que le sens moral est supposé déjà savoir.
Donc, ce à quoi on a accès, pour le dire très clairement, Michel Cohen-Halimi, pour le dire très clairement, c'est-à-dire qu'en gros, Kant a confiance en l'homme, il pense en fait qu'on peut réagir tout à fait moralement dans une situation de manière spontanée, intuitive,
Non, pas du tout. Je pense qu'en réalité, il va déplacer les évidences du sens moral, il va les transformer. C'est ça que je veux dire quand je dis il les performe. Et donc, on va avoir des déplacements. La fondation de la métaphysique des mœurs, si vous regardez la structure, c'est passage, passage, pas. Donc il y a un cheminement qui va décaler le sens commun par rapport à ces évidences. Et donc là, le sens moral tel que Kant va le définir n'a absolument rien à voir avec l'anthropologie du sens moral, avec la philosophie du sens moral, avec un quelconque sentiment empiriquement donné.
Donc pas sentimentaliste, c'est
ça ?
Pas
du tout.
Pas du tout. Et l'anti-Garve, donc, c'était vraiment pour montrer... En fait, Kant est quand même beaucoup plus polémique qu'on ne se le figure.
Ah non, mais je crois que vraiment, on est dans une arène.
Mais oui, parce que maintenant, on le voit aussi comme un philosophe classique, et d'ailleurs plutôt du côté de l'intellectualisme. C'est-à-dire que pour nous, c'est une morale qui est abstraite, alors que là, vous êtes en train de nous dire, c'est une morale ancrée dans le sentimentalisme, mais qui est contre ce sentimentalisme.
Absolument. Mais l'anti-Garve, c'était le titre prévu, et si vous prenez théorie et pratique 8 ans plus tard, il y a une partie qui est réponse aux objections de Garve.
Et pourquoi
donc il n'en a pas fini avec ce Garve.
Mais qu'est-ce qui lui pose comme problème ? Pourquoi il n'a pas gardé ce titre d'ailleurs peut-être pour marquer ce côté quand même de l'invention morale qu'il propose.
Mais parce qu'il ne veut pas s'aliéner le sens commun. Il ne veut pas s'aliéner le sens commun qui vit avec beaucoup de goût et de plaisir les lectures de ce micmac dégoûtant.
Il ne veut pas être... Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, Michel Cohen-Halimi. Ah, très bien, Raphaël Hersam. Voilà. Alors, que vient faire le respect dans cette invention morale, dans cette position qu'essaye de tenir Kant dans son siècle ? Est-ce que le respect, c'est un concept en vogue ? Ou est-ce que vraiment il le sort, voilà, il le réinvente ?
Je vais essayer de répondre, en fait, dans la foulée de ce qu'a expliqué Michel Cohen-Halimi, c'est que le point de départ de Kant, c'est l'idée commune selon laquelle, en fait, nous avons toutes et tous des obligations, des devoirs.
Et, lesquels, par exemple ?
Alors, ça peut être le devoir, en fait... d'élever ses enfants en essayant de leur donner tous les moyens de leur autonomie et de leur liberté. Donc ça, Kant le reconnaît. Ça peut être l'obligation, tout simplement...
Plutôt des obligations morales, donc. Oui. D'entraide, de solidarité, d'éducation.
Oui, effectivement, Kant considère qu'on a l'obligation d'essayer de se soucier aussi du bonheur d'autrui pour pas, effectivement, que la misère et la pauvreté, en fait, créent des espèces de tentations qui peuvent plonger ceux qui les souffriraient vers le mal ou le vice. Mais enfin, si je peux partir, effectivement, de la manière dont la notion de respect est introduite chez lui, c'est que la manière dont nous avons conscience de nos obligations, de nos devoirs, elle est ce qu'il appelle catégorique, donc ça a été expliqué dans les émissions précédentes. Mais ça signifie qu'on ne se sent pas tenu de ne pas mentir, de ne pas assassiner, parce qu'on viserait un certain résultat du type ne pas être poursuivi par la police, et donc on n'est pas mû par la peur. Si tel était le cas, effectivement, l'obligation serait seulement conditionnelle. On serait effectivement dans la position du Gigès de Platon, en fait, qui n'obéit aux lois que parce qu'en fait, il craint les conséquences. C'est bien parce que les obligations valent par elles-mêmes, sans condition, de façon absolue, que Kant introduit la notion de respect. Au fond, le respect, c'est le nom, effectivement, du sentiment qui s'attache aux obligations. C'est l'autre nom de la conscience d'obligation en son caractère inconditionné. Et donc, c'est par suite que le respect s'adresse aux personnes, en tant qu'en fait, pour Kant, les personnes humaines sont capables de se conduire en mettant la loi morale au fondement de leurs actions.
Et alors, j'ai une question sur l'articulation entre ce que vous avez dit tous les deux, c'est-à-dire Kant propose, réinvente la morale, et pourquoi, en fait, cette réinvention, elle va prendre forme notamment à travers, alors est-ce que c'est le bon terme de dire le concept de respect ? Pourquoi le respect, c'est un concept central, je dirais même un peu nodal, dans sa philosophie, qui permet de comprendre cette réinvention morale, Michel Cohen-Halimi ?
C'est un sentiment absolument nodal.
Et pourquoi pas un autre d'ailleurs, hein, je ne sais pas moi, l'amour, j'en ai pas d'autres en tête, mais voilà, pourquoi celui-ci et pas un autre ?
Alors, c'est absolument nodal parce qu'il ne prend appui sur aucune espèce de sentiment qui émanerait d'une anthropologie. Le respect, c'est pas un motif pour la loi morale, c'est pas un sentiment qui nous dispose à obéir moralement, et là le renversement, vous voyez, est considérable, c'est la loi morale faite motif. Donc si vous voulez, si on veut donner une définition quand même assez déconcertante pour le sens commun du respect,
voilà.
C'est la loi morale écoutée. Donc je vais encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement il y a un renversement de fond en comble, c'est la loi morale faite motif, et non pas un motif pour l'obéissance morale, mais en outre, là où la langue allemande est quand même, la langue philosophique allemande est en train de se constituer. Personne n'a écrit de philosophie allemande avant Lessing et Kant. Et donc chez Kant, il y a des moments où, pour fixer les concepts, alors là qu'il invente, il fait un marquage latin. Il opère un marquage latin. Et là, il y a des ruses incroyables. Je veux dire, là, l'idée que Nietzsche a d'un vieux rusé, elle est extraordinaire dans le champ pratique. C'est-à-dire qu'il dit latin « reverentia », qui correspond en allemand à « ehrfurcht », le respect. Or, en équivalent de « reverentia », qui est le respect, tel que tout le monde le connaît, respecter les grandeurs instituées, etc., les grandeurs empiriques, celles qu'on estime devoir... respecter, mais pour des raisons sociales, pour diverses raisons.
Un peu le mot que nous, on connaît
voilà,
aujourd'hui.
Voilà, le mot que nous, on connaît. Voilà, voilà. Le mot du sens commun,
exactement.
Ehrfurcht, oui. Devient, sous la plume de Kant, et pour la première fois dans l'histoire philosophique allemande, Achtung, attention. On voit ça sur les panneaux signalétiques, oui. Attention, mais attention au sens de écouter.
Alors, il a ce terme-là, le respect en allemand chez Kant, c'est Achtung.
Achtung. Jamais on n'avait défini le respect comme écoute. Donc, voyez, la loi morale écoutée, c'est le sentiment de respect.
Mais,
alors, si vous voulez, la loi morale pour Kant, tout le monde l'entend, même l'homme le plus scélérat. Cette voix-là, on ne peut pas la recouvrir, mais nous sommes à la radio, je veux dire, on peut entendre, mais pas écouter. Donc là, il y a une dimension active. On entend la loi morale. Puis il y a une sorte de phénoménologie de l'écoute, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'actif qui nous fait recevoir cette loi morale comme quelque chose qu'on s'applique à soi-même et qui nous transforme cette loi en notre propre motif d'action.
Je comprends enfin. Raphaël
Ersam. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans le fait que, dans la langue courante, respect signifie obéissance, respecter en fait la loi.
Exactement, comme une sorte de déférence.
S'y soumettre et la suivre. En fait, chez Kant, le respect est simplement l'effet de la conscience de la loi sur le sentiment. Donc c'est l'idée que, même si à la limite on n'obéit pas à la loi, éventuellement, les scrupules qu'on pourrait avoir, en fait, sont la marque, en fait, de l'inscription sentimentale de la conscience de la loi en fait, dans le sujet. Et donc, son invention tout à fait inédite, c'est que les motifs subjectifs qui sont prêtés généralement aux agents dans la conduite morale, c'est, par exemple, alors selon lui, eh bien, suivre en fait les enseignements de son éducation, et ça, il prête ça à Montaigne. Il y a ceux qui pensent qu'en fait, simplement, c'est le rapport à l'institution, c'est-à-dire aussi au contrôle, d'ailleurs, social et policier,
mais qui fait qu'on
est dans
ailleurs.
La conduite morale. Mmh. Oui, ça existe absolument. Mais pour Kant, ça n'est pas le respect, au sens de ce n'est pas ça qui marque en l'être humain, en fait, la conscience du caractère absolument obligatoire des devoirs. Et il dit, voilà, et les deux dernières choses, ce serait, au fond, le plaisir éventuel, le contentement qu'on pourrait éprouver à suivre, en fait, les principes moraux. Il dit ça non plus. Ce serait, au fond, chercher son intérêt, chercher le bonheur à travers la morale, ce qui la viderait absolument de toute sa teneur.
Ce qui la rendrait conditionnelle, cette
voilà.
morale, d'ailleurs.
Donc, il dit, en fait, ni Épicure, ni Hutcheson, ni Montaigne, ni, en fait, voilà, alors je ne sais plus qui il nomme pour la Constitution civile, mais enfin, voilà, mettons, ni Hobbes. Le respect, c'est en fait la marque absolument unique du fait que la loi est suivie simplement parce qu'on comprend qu'elle représente une valeur absolue, alors, ce qu'il faut faire.
Alors j'ai une question, pourquoi avoir ce terme de respect qui finalement en France biaise un peu les choses, c'est-à-dire que quand vous dites Hartung, Michel Cohen-Halimi, moi je et donc attention, ah ben moi je comprends beaucoup plus facilement. Alors pourquoi on a cette traduction de respect qui vous êtes tous les deux vous hochez la tête. Allez-y Michel Cohen-Halimi.
Ah oui, mais je pense qu'il faudrait définir le respect. Alors d'abord le paradoxe en effet pour un sens commun,
bah oui.
C'est que c'est un sentiment a priori, voyez. Ouais. Donc c'est je veux dire c'est oxymorique, totalement oxymorique. Et d'autre part il faudrait définir le respect Hartung comme la loi morale écoutée. Je veux dire, peut-être on comprendrait mieux, en effet.
Peut-être et l'incidence... mieux traduire autrement Kant, même ?
Non, parce que je pense que ce contrat d'énonciation, il est fondamental, il ne veut pas s'aliéner le sens commun. Donc il faut au contraire débrouiller à l'intérieur du concept toute l'opération de resémantisation. Et ça, il le signifie bien en mettant comme équivalent latin un terme qui n'est pas celui qu'il a utilisé en allemand.
Raphaël Ersam.
Je pense qu'on peut aller voir du côté de l'étymologie du terme français respect mm-hmm. pour comprendre en fait pourquoi c'est une bonne traduction.
Alors
dites-moi. C'est que respicere en latin, ça veut dire un petit peu regarder en arrière, présenter en fait une attention. Et ça peut être d'une certaine manière regarder aussi au-dessus de soi. C'est-à-dire que le respect qu'on doit aux grandeurs d'établissement, c'est en fait la considération devant ce qui nous rend humbles, ce qui à la limite nous humilie. Or en fait, il y a dans le respect tel que le comprend Kant quelque chose qui est analogue au rapport usuel aux grandeurs d'établissement. C'est que la conscience du caractère absolument obligatoire en fait de la loi morale nous amène à éprouver toutes nos envies, toutes nos aspirations, toutes nos inclinations, comme au fond, dérisoires, misérables. Il dit qu'il y a une humiliation de la sensibilité en son sens pathologique par, en fait, la conscience de la loi. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui explique, au fond, que le terme de respect
est
convienne, même si, effectivement, il entend se détacher de l'assimilation du respect pour la loi morale au respect pour les grandeurs d'établissement. Enfin, ça, c'est la dissociation est très, très importante. Et c'est pour ça qu'il s'explique d'ailleurs avec Fontenelle.
Vous voulez qu'on écoute le texte ?
Je voudrais juste
allez-y,
une
Michel
toute petite... C'est toujours facile d'arriver en inspecteur des travaux finis des traductions. Hein. Mais je trouve que Jean-François Lyotard avait une très très belle proposition pour la traduction de Hartung Reverentia, respect. Il avait la proposition de obédience. Obédience, parce que dans obédience, comme en allemand, on a gehorchen qui veut dire obéir et hören qui veut dire écouter. Donc là, il y a la même et obodire qui donne obédience, c'est bien à la fois entendre et obéir. Donc obédience, bon, ça déconcerte un peu, mais en même temps, ce serait au plus près de ce que Kant est en train de nous dire.
Mais encore faudrait-il avoir l'étymologie en tête, mais effectivement au plus proche de Kant.
Le respect s'adresse toujours seulement à des personnes, jamais à des choses. Ces dernières peuvent susciter en nous de l'inclination, et en ce qui concerne les animaux, par exemple des chevaux, des chiens, etc., même de l'amour, ou bien encore de la crainte, comme la mer, un volcan, une bête féroce, mais jamais du respect. Ce qui se rapproche déjà plus de ce sentiment, c'est l'admiration. Et celle-ci, comme affect, à savoir l'étonnement, peut aussi se rapporter à des choses, par exemple à des montagnes s'élevant jusqu'au ciel, à la grandeur, la multitude et l'éloignement des corps célestes, à la force et à la rapidité de certains animaux, etc. Mais tout cela n'est point du respect. Un homme peut aussi être pour moi un objet d'amour, de crainte ou d'une admiration pouvant même aller jusqu'à l'étonnement, et cependant ne pas être pour autant un objet de respect. Sa bonne humeur, son courage et sa force, le pouvoir que lui donne un rang qui est le sien parmi ses semblables, peuvent m'inspirer de tels sentiments, alors que le respect intérieur à son égard manquera quand même encore. Fontenelle dit « Devant un grand, je m'incline, mais mon esprit ne s'incline pas. » J'ajouterai « Devant un homme de condition inférieure, roturière et commun, chez lequel je perçois une droiture de caractère portée à un degré que je ne constate pas chez moi-même, mon esprit s'incline, que je le veuille ou non, et quelle que soit la hauteur à laquelle je relève la tête pour qu'il n'oublie pas la supériorité que me donne mon rang. »
Emmanuel Kant, lu par Nicolas Berger, Critique de la raison pratique 1788, partie 1, livre 1, si vous voulez vous y référer. Nous sommes dans le chapitre 3 des ressorts de la raison pratique pure. Ce texte est intéressant parce qu'on y voit tout ce qu'écarte Kant pour pouvoir définir au plus près le respect dans sa théorie morale. On a essayé de le faire durant le premier moment de cette émission, Raphaël Hersam. Qu'est-ce que nous dit ce texte? On a l'impression, en fait, presque, Kant est sur le point de nous dire, voilà ce que va être le respect. En tout cas, voilà, il n'est pas de l'admiration, il n'est pas de l'étonnement, ça n'est pas à l'égard d'une chose, ça n'est pas à l'égard d'un paysage. C'est quelque chose de plus. Le respect intérieur à son égard manquera quand même encore. Et là, on a envie qu'il nous dise, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, Raphaël Hersam?
Alors, moi, il me semble qu'il y a trois points importants dans ce texte. Le premier, en fait, c'est l'idée selon laquelle le rapport que l'on a au grand, eh bien, n'est pas du respect parce que c'est en fait peut-être de la crainte, peut-être de l'admiration éventuellement. En tout cas, une attitude d'obéissance, une attitude de soumission, mais rien qui ne soit un attachement à la valeur morale en fait, de la personne. Et si, effectivement, ce double, disons, à côté du rapport, effectivement, de révérence que l'on a, en fait, pour la grandeur d'établissement, il y a, en fait, une reconnaissance de la valeur morale et de l'autonomie, en fait, morale dont ferait preuve, éventuellement, un gouvernant, un roi. Bon, bah alors là, il y aurait en plus du respect. Mais les deux choses sont, effectivement, absolument distinctes. Donc ça, je pense, c'est le premier point. Le deuxième, peut-être plus bref, c'est que si le respect ne s'adresse qu'à des personnes, c'est parce qu'avant de s'adresser à des personnes, il s'adresse en fait à la loi elle-même, au devoir.
En fait, c'est... Aux obligations morales dont vous parlez.
Exactement, ce sont les obligations morales qui suscitent en nous le respect. Et c'est seulement parce que les êtres humains sont, voilà, notre connaissance pour Kant, en fait, les seuls êtres capables de se conduire en faisant de la loi morale le principe de leurs actions, qu'en fait, ils sont dignes de respect. Des êtres qui ne se conduisent pas eux-mêmes en mettant la raison au fondement de leurs actions, on peut en avoir pitié, on peut les considérer, on peut essayer de ne pas les faire souffrir. Il y a toute une série d'attitudes importantes qui peuvent se faire jour, mais on ne peut pas leur accorder du respect, tout simplement parce que la moralité leur est étrangère, selon Kant.
Le troisième point.
Et le troisième point, c'est que, eh bien, du coup, il y a une manière néanmoins indirecte de prendre en considération, selon Kant, en fait, les êtres non humains. En fait, c'est aussi l'objet du paragraphe 17 de la doctrine de la vertu. Kant considère que on peut devoir entretenir, par exemple, des environnements naturels pour leur extrême beauté. Ouais, voilà, pour... ouais. On peut effectivement avoir de la reconnaissance pour un vieux chien ou un vieux cheval avec qui on a beaucoup vécu, avec qui on a partagé des choses. Et puis, on peut devoir ne pas faire souffrir les animaux. Mais pourquoi ? C'est pas parce qu'on les respecte. C'est pas parce qu'il y aurait, selon lui, la reconnaissance de leur capacité morale ou de leur valeur morale. C'est simplement parce que, indirectement, c'est une manière pour l'humanité de se respecter. Au fond, avoir une disposition trop aisée à infliger de la douleur, c'est ne pas respecter l'humanité en nous-mêmes.
On le fait pas pour son chien, par exemple. On le fait par respect, en fait, envers l'humanité. C'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, je veux dire, on peut d'ailleurs.
Ah bon, on pourrait discuter
ne pas
là-dessus.
Être satisfait,
voilà,
hein,
critiquer Kant en disant c'est une définition extrêmement étroite du respect. Après, dans le texte, il parle des chevaux et des chiens, mais là, il dit qu'il s'agit d'inclination et d'amour. Donc, il les évoque effectivement, mais ils ne font pas partie du respect. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que quand on respecte la loi morale, c'est là où on devient respectable, c'est ça ?
Alors, pas tout à fait, et ça peut être l'occasion en fait, d'un petit désaccord, l'expression d'un tout petit désaccord avec Michel Cohen-Halimi.
Ah bah allez-y.
C'est que, à mes yeux, en fait, le respect est la contrepartie de la simple conscience de la loi morale et pas en fait de l'obéissance à la loi morale. C'est pour ça que d'ailleurs la traduction de Lyotard par obédience, moi,
vous ne me gêne un pas.
Parce qu'en fait, dans la critique de la raison pratique, il se trouve que même les scélérats, même en fait ceux qui se conduisent vraiment extrêmement mal et qui du coup en fait n'obéissent pas à la loi morale, en fait sont néanmoins contraints, je veux dire, c'est un fait qu'ils la reconnaissent et ça se marque éventuellement dans... leur mauvaise conscience, s'il y en a, la culpabilité, ou au moins la conscience d'être en train de faire quelque chose de mal, selon Kant. Donc,
pourquoi alors ce terme d'obédience ? Ça voudrait dire que...
Parce que, en fait, respecter la loi, ça n'est pas lui obéir immanquablement. C'est simplement reconnaître sa valeur absolue. Reconnaître l'obligatoriété absolue.
Alors que dans le terme de respect, pour vous, il y a le fait de la suivre, c'est-à-dire de l'écouter, d'être plus actif. Michel Cohen-Halimi, sur ce point et aussi sur le texte qu'on a entendu. Alors voilà, effectivement, moi j'ai décidé de procéder ainsi en diffusant d'abord ce texte, je le dis, mais on s'est un peu cassé la tête avec Carla Michel parce qu'on va diffuser un autre texte après, pour savoir en fait comment définir au mieux le respect chez Kant. Et c'est vrai que dans le sens commun, et on l'a dit, le respect c'est toujours ce qu'on a à l'égard de l'autre. Or là, il nous dit, oui, c'est quelque chose qu'on a à l'égard de l'autre, mais à l'égard de l'autre en tant qu'il respecte la loi morale que l'on a chacun en soi. Comment ça se dessinait l'invention morale de Kant, Michel Cohen-Halimi ?
Bon, sur ce désaccord que j'entends bien,
j'aime beaucoup ce débat autour de...
Eh bien, en fait, je pense que c'est tout l'écart quasi phénoménologique entre entendre et écouter. Je veux dire, on peut entendre la loi morale et ne pas l'écouter. Et donc, l'entendre et ne pas l'écouter, c'est désobéir. Donc pour moi, c'est là le point de vue presque phénoménologique cardinal. On a tous tout de même entendu des émissions, des cours, sans les écouter, comme une basse continue.
Et donc la radio, par
voilà,
exemple,
donc
aussi.
Il n'y a pas un moment où la loi morale, sa voix, on est passé au registre phonique. Hein. On ne se représente pas la loi morale, on l'entend. Et cette voix, dit Kant, elle est unüberschreibbar. On ne peut pas la recouvrir. On l'entend tout le temps. La question, c'est l'écouter. Et l'écouter, c'est une écoute active. Là, la Stimme, elle devait Einstimmung, s'accorder avec tout le registre de la Stimme, traverse tous ses textes. Bestimmen déterminé, la Stimme de la voix morale, l'Einstimmung de la loi, avec la loi morale, s'accorder à la loi morale, c'est obéir. Donc je pense que je serais d'accord avec Raphaël, sous condition de ce qu'on tienne bien la différence entre entendre et écouter. Donc l'homme le plus scélérat entend, et il peut ne
d'accord.
pas écouter.
le débat est clos, mais c'est vraiment passionnant. Parce que, est-ce que c'est ça un peu quand même la clé de voûte chez Kant, on l'a dit, c'est vraiment voilà, d'être sincère avec soi-même. Alors est-ce que là, on a parlé du mensonge hier, et là avec le respect, est-ce qu'il s'agit en fait de savoir écouter sa voix intérieure, sa voix morale. Les deux, vous voulez intervenir tous les deux, Raphaël Hassan, peut-être sur ce que vous venez de dire. Alors,
c'était juste pour finir en fait sur la question précédente, c'était de dire que en fait, le respect n'est pas dû aux personnes qui se conduisent bien, hein, c'est-à-dire, au fond, qui obéissent à la loi morale et en font le principe de leurs actions. Le respect, pour Kant, est dû aux personnes en tant qu'elles sont simplement capables de se conduire, en fait, en mettant la loi morale au principe de leurs actions.
Mais ça, on n'en est jamais sûr. Hein. On ne sait jamais vraiment comment quelqu'un se comporte. Moi, c'est que je suis capable de voir que quelqu'un suit bien les règles d'un règlement intérieur, à l'école, à la radio, voilà, et dans les clous d'une certaine manière. Mais par contre, ça se trouve, c'est une ordure. C'est-à-dire qu'en suivant les règles, on peut être la pire ordure du monde aussi. Donc en fait, c'est voilà, cette loi morale, le respect qu'on a à l'égard de personnes qui suivent une loi morale, si c'est quelque chose d'intérieur, ça peut être très difficile en fait à distinguer, à percevoir.
Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, le respect n'est pas dû en fait aux personnes dont on considère qu'elles suivent la loi morale, mais simplement aux personnes dont on considère qu'elles l'entendent et qu'elles sont capables éventuellement de s'y soumettre.
Mais comment le sait-on ?
Bon, c'est insondable.
Voilà, c'est ça.
C'est insondable. Oui, oui. Donc ça, c'est dans le fond, personne ne sait s'il n'y a jamais eu un seul acte moral accompli. Ça ne nous empêche pas d'en déterminer les conditions. Mmh. Donc ça, c'est très important. Jamais un fait ne contrariera le moindre droit. Enfin, je veux dire, exigence morale. Donc ça, mais il me semble aussi que la thèse forte de Kant, c'est que cette humanité morale, elle n'est pas de fait. Enfin, je veux dire, chez Kant, l'humanité, c'est pas le collectif des hommes qui habitent la Terre. L'humanité, c'est cette exigence, et cette exigence, elle procède de la manière dont je me traite et dont je traite l'autre en moi. Donc l'humanité, elle advient de la manière dont on la traite. Et ça me semble quand même la thèse majeure de Kant. Après, juste le point que je voudrais ajouter, c'est que, en fait, l'effet de la loi morale sur le sujet volontaire. En général, on dit c'est l'écrasement des inclinations, et c'est vrai que même en allemand, l'inscription de la loi morale, Eintrag, quand on l'associe avec un verbe, Eintrag tun, c'est porter préjudice. Donc l'inscription de la loi morale en moi, elle porte préjudice, alors dit-on, aux inclinations. Mais ça, c'est trop rapide, parce que les inclinations, elles regroupent deux types d'attachement à soi-même. Deux types d'amour-propre. Un amour-propre, en fait, qui cultive ses intérêts particuliers au préjudice des intérêts des autres. Donc, c'est un amour-propre exclusif de l'intérêt commun, hein, on pourrait dire. Et puis, il y a un amour de soi, alors inspiration rousseauiste forte, qui n'est pas exclusif de l'autre. Et cet amour de soi, il est promu à un rang d'amour raisonnable, il s'accorde, Einstimmung là pour le coup, il s'accorde. Et là, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'on accède à une épreuve de soi qui nous accorde à l'intérêt commun. C'est une grande question politique chez Rousseau, que Kant a transféré dans le champ moral, c'est comment, à partir de l'intérêt particulier, propre, qui est le mien, et pour autant qu'il ne me centre pas de manière abusive dans le rapport aux autres, dans le rapport au monde, je peux me décentrer de cet intérêt propre exclusif pour accéder à un intérêt commun. C'est la grande question politique de Rousseau, et c'est la grande question de Kant.
La grande question éthique. Pour le coup.
Question morale. Mais dans un contexte, me semblait-il, là encore extrêmement important, le grand économiste américain Albert Hirschman a écrit un livre qui s'appelle « Les passions et les intérêts ». Et dans ce livre, il dit qu'à partir du début du XVIIIe siècle, le terme « d'intérêt » devient exclusivement synonyme de « profit ». Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce dont je tire un profit. Or, ce que Kant est en train de penser, et Rousseau aussi, il y a quelque chose d'oxymorique dans intérêt commun. Et Kant est en train de penser quoi ? Eh bien, le désintéressement. Donc, cette grande question, elle nous porte au bord. Alors, quelqu'un qui a aussi été très attentif à ça, c'est Habermas, dans Connaissance et intérêt. Il dit, dans le fond, dans ces textes de Kant, on a presque un intérêt pur. Et ça nous porte, dit Habermas, au seuil d'une expérience, mais inconcevable. Comment est-ce qu'on peut penser être mu par un intérêt pur ? Comment est-ce qu'on peut prendre intérêt et non pas agir par intérêt ? Prendre intérêt à l'inscription de la moralité dans le monde, à son déploiement, au déploiement de la liberté dans le monde, et ne plus agir par intérêt. Voilà, on y trouve intérêt, mais c'est pas par intérêt.
C'est voilà. Pas par profit.
Voilà, et donc là, il me semble que c'est très important de voir un peu les déplacements qui s'opèrent, et la difficulté pour le sens commun d'imaginer agir non pas par intérêt, tout en trouvant de l'intérêt.
On pourrait m'objecter que derrière le terme de respect, je chercherais simplement à me réfugier dans un sentiment obscur, au lieu de fournir un accès clair à la question grâce à un concept de la raison. Simplement, bien que le respect soit un sentiment, il n'est pourtant pas un sentiment reçu sous l'effet d'une influence. mais c'est au contraire un sentiment que l'on produit soi-même à travers un concept de la raison, et par conséquent spécifiquement distinct de tous les sentiments du premier type, qui se laissent ramener à l'inclination ou à la crainte. Ce que je reconnais immédiatement comme constituant une loi pour moi, je le reconnais avec une dimension de respect, qui signifie simplement la conscience de la soumission de ma volonté à une loi, sans la médiation d'autres influences s'exerçant sur ma sensibilité. La détermination immédiate de la volonté par la loi, et la conscience que j'en prends, c'est là ce qui s'appelle respect, tant et si bien que celui-ci doit être considéré comme effet de la loi sur le sujet, et non pas comme cause de celle-ci.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mosna-Savoie.
Kant, note tirée de la première section de la Fondation de la métaphysique des mœurs, un texte qui date de 1785. Alors, on a déjà un peu dit, amené en fait ce texte par notre discussion, mais quand même, j'aimerais revenir sur cette idée que le respect n'est pas un sentiment reçu, mais un sentiment que l'on produit soi-même. Ça me paraît vraiment intéressant parce que ça veut dire que ça ne vient pas de l'extérieur, mais de nous. Ça veut dire qu'il n'est pas passif, mais actif. Mais comment est-il produit? Est-ce que c'est un effet de la volonté? Je pose une question peut-être un peu naïve. Ou est-ce qu'en fait, il est là déjà, puisque vous avez parlé d'obligation morale, Raphaël Hersam, qu'on en a tous, qu'on a cette voix de la conscience, mais qu'il faut l'écouter. Alors qu'est-ce que c'est, un effet de la volonté? Voilà, comment on fait? Quelle est cette activité qui fait qu'on est producteur de ce ressentiment?
Ça n'est pas un effet de la volonté, parce qu'on ne décide pas, en fait, de l'avoir ou de ne pas l'avoir. On respecte la loi, de toute façon, pour Kant. Et donc, disons, au point de vue qu'on pourrait dire phénoménologique, déjà suivi par Michel Cohen-Halimi. En fait, le respect, c'est la simple contrepartie du fait qu'il y a une raison pure pratique, c'est-à-dire que il y a une sorte de fait de la raison en chaque être humain. Et en fait, toute une série de remarques de Kant le montre bien plus concrètement que ces formules abstraites. Il dit en fait, voilà, même en fait des enfants fort jeunes sont capables de savoir qu'en fait ils doivent rendre ce qu'on leur a prêté. Et il dit voilà, quelqu'un qui saurait qu'il risque de perdre la vie, c'est-à-dire avec qui est la menace la plus forte, qui risque d'être torturé, quelqu'un qui aurait en fait les plus grands plaisirs qui miroitent effectivement devant lui, saurait néanmoins que ça ne constitue pas un motif qui dispense de l'obligation de ne pas porter un faux témoignage, par exemple. Ce sont des exemples qui montrent qu'en fait, il y a une conscience en fait, du devoir, et qu'elle est toujours en fait, si omniprésente qu'elle ne peut jamais être éliminée par en fait l'attrait du plaisir ou par éventuellement la peur, voilà.
Mais qu'est-ce qui fait que au-delà de l'entendre, on va vraiment l'écouter et donc aussi en faire un principe moral d'une certaine manière, parce qu'on peut entendre cette voix-là et puis ne rien en faire, c'est-à-dire être dans une culpabilité, se perdre dans le divertissement, être dans la malhonnêteté, la mauvaise foi, le déni, etc., le mensonge à soi-même. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose quand même d'actif, d'un combat intérieur qui fait qu'on va l'écouter, cette voix, Michel Cohen-Halimi?
L'expérience morale, dans le fond, pour Kant, c'est une épreuve de soi.
Ouais.
Donc cette loi morale, quand je l'écoute, donc actif, quand je l'écoute, eh bien, en fait, dit Kant, se produit dans mon ego, dans mon égoïsme, un écrasement de la présomption, c'est-à-dire d'une centration de mon ego sur mes intérêts propres et exclusifs. Et donc cet écrasement, en vertu du concept de grandeur négative, qui fait que dans le réel, il n'y a jamais d'opposition de force à somme nulle, un écrasement d'une force, c'est toujours la promotion d'une autre force. Et donc cet écrasement en moi d'une dimension de mon égoïsme qui est exclusive du rapport aux autres, d'un intérêt partagé, promeut en moi un amour de soi que Kant convoque alors là de nouveaux marquages sémantiques intéressants, avec un terme grec qui est philotia. Et philotia, ça va désigner, chez Aristote, l'amitié, c'est-à-dire la réciprocité dans le rapport aux autres. Je me traite moi-même et je m'intéresse moi-même à ce qui peut tout autant intéresser l'autre. Donc il y a promotion d'un amour de soi raisonnable. Vous voyez, c'est une épreuve, un écrasement en soi d'un égo égoïste, rivé à la particularité de ses intérêts, centré sur lui-même. Cet égo-là, dit Kant, il est écrasé, humilié, ratatiné.
Ce mauvais égoïsme.
Oui, Nietzsche disait, mais on parle toujours d'égoïsme, mais on ne sait pas de quel égo on parle. Alors là, on parle de l'égo d'un amour propre présomptif, marqué en latin par arrogantia, donc boursouflé. La boursouflure de l'égo est totalement néantisée, et cette néantisation, elle a évidemment comme effet la promotion d'une force autre, qui est un égo ouvert au rapport aux autres, philotique. Mais ce rapport, il est ordonné à l'obéissance à la loi morale. Et donc là, on ouvre sur une communauté morale qui, pour laquelle Kant, de manière étonnante quand même, emprunte à la puissance métonymique de la philotia, c'est-à-dire qui est quand même à la fin de l'éthique à Nicomaque, le moment de clôture de l'éthique à Nicomaque dans le rapport aux autres. Donc une réciprocité dans le rapport à moi et aux autres, au cœur du concept d'intérêt, alors même que ce concept d'intérêt est en train, dans cette deuxième moitié du 18e siècle, de se réduire totalement au calcul et au profit.
Ce qui fait qu'on pourrait repenser au premier texte qu'on a diffusé. Effectivement, le respect de la loi morale en soi fait qu'on a un certain type de rapport aux autres qui n'est pas de l'admiration ou de l'étonnement, mais un véritable respect pour cette dimension morale, enfin ce sens moral. Raphaël Hersam.
Pour revenir à votre question, en fait, ce qui fait qu'on obéit à la loi, en fait, on ne peut absolument pas l'expliquer. Parce que donner une explication, ce serait donner, au fond, des facteurs mécaniques qui nous pousseraient, au fond, à suivre
ou
la loi.
Presque une recette, justement.
Au fond, une des idées centrales de la deuxième critique, c'est que avoir conscience d'être sujet à une obligation, c'est en même temps savoir qu'on a la possibilité, en fait, de remplir cette obligation. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'on va ou non obéir à la loi ? Mais en fait, c'est la liberté. C'est le nom de la liberté. Et c'est pour ça qu'en fait, pour Kant, il y a une évidence à dire qu'en fait, la conscience de la loi qui est un fait est ce qui nous découvre la présence en nous d'une liberté elle-même fondamentale.
Alors, c'est assez dingue, ça veut dire qu'à la fois on a le sens de l'obligation morale, mais aussi le sens de la liberté, ce qu'on va nommer chez Kant en fait l'autonomie, c'est-à-dire le fait de pouvoir découvrir cette sorte de moi, cette autre puissance qui va me contraindre, mais à laquelle je décide ou pas d'obéir, c'est ça.
Conscience, je dirais, plutôt que sens. Hein.
Conscience.
Qui est en fait une conscience de la liberté. Parce que cet arrachement-là au propre, au particulier, aux inclinations exclusives de tout rapport aux autres, cet arrachement-là, c'est l'indépendance qui est l'index de la liberté. Indépendance par rapport au déterminisme naturel, des inclinations, etc. Donc c'est le nom de la liberté, là, qui se découvre, mais comme force positive. Et ça, chez Kant, ça devient l'autonomie.
Est-ce qu'on peut parfois se tromper ? C'est-à-dire qu'on va suivre, on va avoir un sens moral, on va avoir conscience des obligations morales, on va les écouter, mais parfois on va échouer. Est-ce que c'est un projet en fait, qui ne cesse de se réactualiser, un combat qui ne fait que se répéter de jour en jour ? Ou est-ce qu'un jour on peut dire qu'on l'a gagné ou définitivement perdu ?
J'ai envie de faire une réponse en gros qui dépasse un petit peu Kant tout en s'inspirant très fortement en fait de Kant. C'est que il est très vraisemblable qu'il y ait en fait des moments de défaut de lucidité morale par le simple fait que Kant, en dépit en fait de l'extrême grandeur en fait de ses principes, c'est lui-même quand même à plusieurs reprises fourvoyé. En considérant, par exemple, dans des jugements, évidemment, qui étaient aussi imprégnés de préjugés d'époque.
Vous pensez à quoi en particulier ?
En particulier de préjugés raciaux. Il a jugé, effectivement, qu'un certain nombre de populations non européennes n'étaient pas exactement dignes du respect qui s'adresse, en fait, à toute personne capable de se conduire de façon autonome. Et effectivement, pour les Amérindiens, en fait, les populations amérindiennes, Kant considérait qu'en fait, c'était des populations amorales, incapables, en fait, de se déterminer par rapport à la loi morale et qui ne méritaient, de ce fait, au fond, pas le respect.
Donc il a été incapable d'appliquer, d'appliquer l'universalité de ce principe de l'obligation morale au moment où il écrit ?
Ah, pas exactement. C'est que l'universalité de la loi morale, elle signifie que les normes morales sont universellement obligatoires. Mais ça ne signifie pas que la loi morale est, selon lui, présente clairement en tout être humain. Alors ça, c'est vraiment une difficulté, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait qu'on ne peut pas la surmonter, alors c'est vrai pour Kant chez les enfants au-delà d'un certain âge, mais pas chez les tout-petits. Hein, dans les réflexions sur l'éducation, il dit qu'en fait, dans les premières années, en fait, il n'y a pas de conscience de la loi morale. Il n'y a pas encore de concept des mœurs, aucun. C'est pas non plus évident pour lui que la loi morale soit l'objet d'une claire conscience chez les femmes. En tout cas, dans les observations sur les sentiments du beau et du sublime, il a l'air de dire qu'en fait, il y a un attachement presque esthétique en fait, des femmes aux belles actions, plutôt qu'un attachement moral en fait, au bien. Et dans la géographie physique, il y a un certain nombre de leçons dans anthropologie, on a en fait aussi un certain nombre de problèmes qui concernent en fait des thèses sur l'absence d'une considération pleine de la loi morale en fait chez des populations non blanches. Donc en fait, ma réponse est très claire. Oui, je veux dire, nos obligations morales sont inconditionnées. Il y a vraiment la reconnaissance du caractère catégorique de la loi, c'est vraiment la force de Kant, et l'idée que le respect lui-même qui est dû aux personnes est inconditionné, ça, je pense, c'est très fort. Mais enfin, je veux dire, il peut y avoir des moments néanmoins où, disons, la lucidité morale est prise en défaut. Ouais.
Dans le système de la nature, l'homme est un être de faible importance, et il a, avec les autres animaux, en tant que produit de la terre, une valeur vulgaire. Même le fait qu'il ait sur ceci la supériorité de posséder un entendement et puisse se proposer à lui-même des fins ne lui donne pourtant qu'une valeur extrinsèque d'utilité, à savoir celle par laquelle un homme est supérieur à un autre, autrement dit un prix, comme celui d'une marchandise, dans le commerce qu'il entretient avec ses animaux considérés comme des choses. Commerce où il a cependant encore une valeur inférieure à celle de ce moyen universel d'échange qu'est l'argent, dont la valeur est dite pour cette raison éminente. Simplement, considéré comme personne, c'est-à-dire comme sujet d'une raison moralement pratique, l'homme est au-dessus de tout prix. Car en tant que tel, il doit être estimé, non pas simplement comme moyen en vue des fins d'autrui, ni même en vue des siennes propres, mais comme fin en soi, c'est-à-dire qu'il possède une dignité, une valeur intrinsèque absolue, par laquelle il force à son égard le respect de tous les autres êtres raisonnables de ce monde, peut avec tout autre membre de cette espèce se mesurer et s'estimer sur un pied d'égalité. L'humanité, présente en sa personne, est l'objet du respect qu'il peut exiger de tout autre homme, étant entendu cependant qu'il ne doit pas non plus faire en sorte de le perdre.
Paragraphe 11 de la doctrine de la vertu dans la Fondation de la métaphysique des mœurs de 1785, évidemment d'Emmanuel Kant. Nous parlons toute cette semaine de la morale d'Emmanuel Kant et aujourd'hui de respect et de dignité. Alors on vient d'entendre ce terme de dignité, vous l'avez employé tout à l'heure Raphaël Hersa, mais puis tout à l'heure vous avez dit aussi Michel Cohen-Halimi que Kant luttait en fait contre presque la corruption de ce terme d'intérêt. Et là on voit bien qu'avec le terme de dignité, il fait la différence entre la dignité, la valeur absolue d'une personne intrinsèque et le prix d'un objet, d'une marchandise qu'on échange.
Oui, oui. Alors, juste avant de vous répondre, juste une toute petite phrase sur ce que vient de dire Raphaël et Azam à l'instant. Moi, je pense que l'universalisme moral kantien, il devrait être mesuré aux conditions historiques de son émergence. Il est entaché d'un certain nombre d'ombres qui sont évidemment assignables à une époque, aux conditions d'émergence d'une liberté et d'une émancipation dans l'Aufklärung allemande qui sont portées par la bourgeoisie qui est en train de s'émanciper de la féodalité, par un européocentrisme anthropocentrisme. Donc on ne peut pas reconduire aujourd'hui l'universalisme kantien dans le champ de la morale sans s'interroger sur ses conditions historiques d'émergence. Ça me semble un travail philosophique absolument nécessaire. Voilà, donc j'en reviens maintenant. Alors, moi, ce que je trouve assez étonnant dans ce texte, quand même, dans le premier paragraphe, c'est qu'en fait, il porte un diagnostic précisément sur cette mutation, alors dont la dégénérescence d'intérêt ou sa restriction à profit est la marque. C'est-à-dire que la société industrielle est en train de se développer, alors pas en Allemagne, mais en Angleterre. Et là, on voit bien, quand même, dans le premier paragraphe du texte, à quel point on est dans le moment d'hégémonie de la valeur d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que dans le champ du commerce, dans le champ social, dans le champ économico-social, il y a une sorte de principe de fongibilité générale qui est en train de s'installer, qui fait que, en fait, les choses, les animaux, les êtres humains sont substituables les uns aux autres et qui sont... Alors, on n'est pas très très loin, finalement, c'est ça qui est étonnant. On n'est presque pas très loin du concept weberot-marxien de réification. C'est-à-dire qu'en fait, tout est marchandise, tout est en train de devenir marchandise.
On peut se transformer en objet.
Absolument, et le prix suprême, c'est finalement l'argent, c'est-à-dire l'abstraction réelle de la monnaie. Et donc, tout ce premier paragraphe nous mesure à le contraste qu'introduit Kant avec la personne, avec le sujet moral, qui est, alors on peut dire négativement par rapport au premier paragraphe, qui est le sans-prix, qui est ce qui se soustrait à cet échange et à cette fongibilité généralisée. Et là encore, marquage quand même latin et allemand étonnant. C'est-à-dire que dans le premier paragraphe, quand il met valeur, il met le latin pretium, qui veut dire prix.
Oui.
Et donc là, il est en train de réintroduire la grande différence stoïcienne entre dignité et prix. On la trouve dans la lettre 71 de Sénèque à Lucilius. C'est une chose extrêmement importante, mais il la resémantise de nouveau. Donc le sens commun peut retrouver ses évidences, ce qui a du prix et ce qui n'a pas de prix. Ce qui est inappropriable, c'est l'être comme fin en soi, et ça c'est le sujet moral. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, la raison est capable de suspendre. Elle n'est plus la raison instrumentale. La raison pure pratique est capable de suspendre l'usage téléologique, la concaténation interminable des fins et des moyens, des fins qui deviennent des moyens pour d'autres choses, tout ça ordonné à un intérêt profit. Voilà. Et là, on se soustrait à ce moment-là, et on accède à ce que Kant va nommer dignité, et donc là, il y a une équivalence entre dignité, fin en soi, personne, sujet moral.
Et respect alors ?
C'est ce qu'on respecte, c'est ça qu'on respecte.
C'est ça en fait, le respect, ce terme qu'on avait dans le premier texte qu'on a diffusé, il manque quelque chose, ce respect intérieur, en fait, il est là.
Oui.
C'est-à-dire dans l'idée de cette personne. Raphaël Hersam, pour conclure cet échange.
J'ai eu combien de temps ?
Allez, une minute.
Ok, oui, c'est que...
Une minute trente.
La dignité, en fait, de la personne. Ce qui est vraiment fantastique dans cette idée de Kant, c'est que... elle est censée être... absolue. C'est-à-dire que même si on a une relation commerciale, une relation instrumentale, professionnelle, sociale, au fond, avec quelqu'un, et que on traite quelqu'un comme quelqu'un qui nous est utile, même peut-être d'ailleurs pour un criminel, au fond, il y a toujours simultanément à côté de cela le fait que la personne, comme sujet capable d'une conduite morale, même si la personne ne l'a pas nécessairement, mérite au fond un respect par le simple fait d'avoir en soi l'humanité. Et donc c'est ça l'idée de la dignité. Je me permettrai quand même simplement d'indiquer très 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 brièvement le fait que la dignité étant ce qui découle du fait d'être chez Kant capable de conduite morale comme lui le comprend, ça le conduit aussi à ne pas considérer que la dignité s'attache aussi à ce que la personne peut avoir de faible, de souffrant. La dignité, en fait, disons, par exemple, des personnes qui ont connu l'oppression, en fait, dans les systèmes, en fait, de violence propres au XVIIIe siècle, Kant, en fait, ne les nomme pas. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être encore, pour aller encore au-delà de Kant, tout en lui étant peut-être aussi fidèle, ben, il y aurait à penser ce qu'est la dignité aussi du côté, en fait, de la souffrance. Je ne sais pas si j'ai le temps de lire, en fait, un texte de Fanon, de deux lignes.
Allez-y, très vite.
Oui. Pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que la plus concrète, c'est la terre. La terre qui doit assurer le pain et bien sûr la dignité. Mais cette dignité n'est pas exactement la dignité de la personne humaine. Cette personne humaine idéale, il n'en a jamais entendu parler. Ce que le colonisé a vu sur son sol, c'est qu'on pouvait l'arrêter, le frapper, l'affamer.
Donc ce travail dont parlait Michel Cohen Halimi est à faire absolument.
So you know, I won't try to please her. I can't try to appease her. Yes, I can't. Even if this means that I won't be a man who sees her. Yes. You know, she could go if she wants to go. She can run if she wants to run. But that's okay, 'cause I believe in everything I've done. Yeah, uh-huh. And this way she gonna, someday she's gonna respect me. She say, Jonathan, what you thinking? And I tell her everything.
Ow.
Yeah.
Ow.
Even though sometimes I'm scared to tell her, 'cause I know it's gonna sting.
Ow.
Oh, yeah.
Ow.
If that's too much for her.
Merci beaucoup à vous deux, Michel Cohen Halimi et Raphaël Hersam. Vous trouverez sur le site toutes les indications, les références bibliographiques de vos livres et ouvrages collectifs. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver, comme tous les jeudis, le fil philo par Laurence De Villers, aujourd'hui sur le pardon.
Le fil philo.
Cette injustice, elle ne passe pas. Ce mépris, cette trahison qu'on vous a fait subir, vous ne parvenez pas à l'oublier. Vous en éprouvez encore de la colère. Vous ne réussissez pas à pardonner. Ce n'est pas le philosophe Aristote qui vous critiquera, car il voit dans la colère une saine indignation. Vous pourriez croire que toute la philosophie vous encourage à vous engager dans la voie de l'apaisement, de la réconciliation et du pardon. D'une certaine façon, c'est vrai. Les philosophes sont quasi unanimes à condamner la colère et encore plus la vengeance, de Sénèque à Ricoeur en passant par Spinoza. Mais presque seul contre tous, Aristote accorde à ces deux émotions, colère et vengeance, une dimension positive. Il affirme dans son ouvrage La Rhétorique, dont seuls certains fragments sont parvenus jusqu'à nous, que la colère est la réaction la plus juste qui soit face à l'injustice. Elle ressort de l'estime de soi, quand votre dignité a été bafouée et que vous avez été, sans raison valable, traité avec mépris. Elle ne relève ni d'une pulsion, ni d'une exagération, ni d'une forme d'agressivité. Au contraire, vous pouvez vous mettre tranquillement en colère, souligne Aristote, de manière parfaitement réfléchie. On agit alors volontairement, affirme-t-il dans son autre ouvrage, Éthique à Nicomaque, car on sait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. La colère est une saine indignation face à l'imposture de certains, au fait qu'ils obtiennent ce qu'ils ne méritent pas et qu'ils vous privent de ce qui vous revient. Cette colère s'accompagne du désir de se venger. Je laisse la parole à Aristote. Toute colère est accompagnée d'un certain plaisir, celui que donne l'espoir de la vengeance. Inutile même de passer à l'acte. Le seul fait d'imaginer votre vengeance vous procure du plaisir et d'une certaine façon vous venge. Vous qui avez été rabaissé, compté pour rien, vous avez précisément par ce désir de vengeance la force de vous affirmer, de projeter, de vouloir et de dire que vous comptez. S'il n'est pas question de cruauté, c'est-à-dire du plaisir malsain pris à infliger à son tour la souffrance, la vengeance se trouve justifiée, car insiste Aristote, on ne commet pas d'injustice quand on a été soi-même victime. Il y a même, selon lui, une forme de franchise, de sincérité dans la colère, qui n'est ni ruse ni hypocrisie. C'est une manière de dire « c'est injuste, on ne peut pas permettre cela ». Cette juste indignation s'oppose tout autant à la passivité qu'à l'emportement excessif. On ne peut pas se mettre en colère pour tout et tout le temps. Mais ne pas vouloir se venger, toujours selon Aristote, est suspect et relève d'une forme d'impuissance ou d'un défaut de jugement qui vous rend incapable de discerner avec fermeté ce qui est juste de ce qui est injuste et de le faire savoir. Si l'on a piétiné ce qui est important à vos yeux, le mérite, la fidélité, le respect de la personne, et que vous en ressentez de la colère, Aristote ne vous en blâme donc pas. Vous pouvez avoir le droit de ne pas pardonner, rien ne vous y oblige. Mieux vaut une juste colère qu'une évidente lâcheté.
Merci Laurence Devillers et merci à toute l'équipe, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Luce Mourant, Luna Adjla et Victoire Melet, à la réalisation Nicolas Berger, à la prise de son d'Aliya. Pour retrouver toutes les émissions avec Philosophie, rendez-vous sur le site et sur l'application Radio France.